Voilà. Alors, il y a, vous savez que si vous êtes comme moi, vous lisez souvent la Bible que vous avez eue au début de votre vie chrétienne. Souvent, c'était la Bible second. Et puis, au bout d'un moment, on la connaît par cœur. Et on finit par penser que ce verset qu'on connaît par cœur, ben, il n'y a pas d'autre façon de le comprendre. C'est celui-là et c'est pas un autre. Et les traductions que nous avons eues, ben, elles étaient plus ou moins bonnes. Et puis, il faut avoir un esprit critique. Et pour pouvoir avoir autre chose, il faut vraiment se plonger. Alors, quand on change de Bible, quand on change de version, quelquefois on est choqué pour un verset qui, tu vois, c'est pas du tout comme d'habitude, j'ai du mal à le retenir, etc. Et moi, j'ai souvent eu la question, mais quelle Bible tu utilises pour faire les études? Et j'ai toujours la même réponse, ben, j'en prends une quinzaine, comme ça, je suis tranquille. Hein? Mais la véritable réponse, c'est d'aller voir dans l'hébreu. Et même quand on est dans l'hébreu, vous allez voir, c'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de André Chouraqui, la Bible Chouraqui, que on considère, presque tout le monde la considère comme la Bible mot à mot, et peut-être la meilleure traduction, mais vous allez voir qu'elle a des défauts. Elle a aussi des défauts. Alors, pour beaucoup d'entre nous, André Chouraqui, il est connu grâce à la traduction de la Bible. Hein, on a la Bible Chouraqui. Mais il n'y a pas que ça. C'était vraiment un grand homme. Il a voulu transmettre à l'humanité la connaissance des Écritures. Et donc, il est né en Algérie le 11 août 1917, et il est mort à presque 90 ans le 9 juillet 2007 à Jérusalem. Voilà, c'est son parcours. Alors, qui était ce monsieur? Eh bien, c'était un avocat, un écrivain. Il a écrit des livres. C'était un penseur, un rabbin et un homme politique. Parce qu'il a été conseiller de David Ben Gurion. Et il a été aussi commandeur de la Légion d'honneur. Donc c'était vraiment un grand homme et qui a voué sa vie à traduire les Écritures. Alors, il a traduit le Tanakh, les Évangiles et le Coran. Oui, il parlait l'arabe. Évidemment, il est né en Algérie. Donc, vous voyez, toutes les Écritures y sont passées. Et il a fait un travail gigantesque. Par exemple, la traduction de la Bible, du Tanakh, simplement du Tanakh, ça a duré 17 ans. Et ça a été présenté, notamment au pape, en 26 volumes. Vous vous rendez compte le travail qu'il y a derrière? Donc c'est vraiment un grand homme. Et alors, il a beaucoup écrit, et bien sûr, vous savez que quelqu'un a dit que traduire, c'est trahir, hein, ou encore traduire, c'est interpréter. Et vous allez voir, notamment, on va voir un verset où l'interprétation, à mon sens, qui a été donnée par les traductions habituelles, à mon sens, elle est fausse et elle est catastrophique. Donc, pour bien traduire la Bible, la Torah, eh bien, il faut connaître la tradition juive. Si vous avez un esprit chrétien, simplement, Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Vous allez essayer de traduire la Bible en essayant d'y faire passer votre idée chrétienne. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Hein, c'est la Bible, le Tanakh, c'est la pensée juive. Et il faut connaître aussi la pensée qui est dans le Talmud pour pouvoir arriver à traduire, trouver la pensée de Dieu à travers ça. Donc, je vous lis ici un petit texte qui est tiré d'un écrit de Chouraki. Saint Jérôme, c'était au IVe siècle. Il a traduit la Bible hébraïque en latin. Et on a appelé ça la Vulgate. D'accord? Donc, il a essayé de faire une traduction révisée avec ce qu'on appelle la Veritas Hebraicas. Un retour aux sources aussi radical que possible. Au fond, il a tenté de faire au IVe siècle ce que j'ai tenté, c'est lui qui parle, ce que j'ai tenté de faire au XXe siècle. En l'appelant Vulgate, c'est-à-dire pour le vulgum, pour le peuple, il a offert la première Bible de poche, en latin, de poche, enfin, il fallait des grandes poches, la Septante. Alors la Septante, vous savez ce que c'est la Septante. Alors la Septante, ça a été fait, je peux me tromper dans les dates, mais en je ne sais plus si c'est 130 ou moins 170, enfin, plus d'un siècle avant Jésus-Christ, pratiquement tout le monde juif était hellénisé. La plupart d'entre eux se trouvaient à Alexandrie. Et Alexandrie, ça parlait grec. Tout le monde parlait grec. Donc, il a été décidé de traduire la Bible qui était écrite en hébreu, de la traduire en grec. Donc, ce sont les rabbins, les sages d'Israël, qui étaient à Alexandrie, qui ont traduit cette Bible. Et on dit qu'ils étaient 70 et que ça a été fait en 70 jours. C'est pour ça que ça s'appelle la Septante. Bon, ça, il faut voir un peu si c'est vrai ou pas. Mais ça a été un drame parce qu'ils ont tout déformé. On va en parler un petit peu après. C'est des Juifs qui ont fait ça, oui, ce sont des rabbins. Il n'y avait qu'eux qui étaient capables de traduire. Donc, la Septante et la Vulgate sont deux grands monuments de la culture universelle et ces deux grandes traductions ont inspiré toutes les autres. Voilà.
Donc les erreurs se sont transmises.
J'ai pas compris.
Les erreurs se sont transmises.
Alors le problème, c'est qu'il faut retourner aux écrits d'origine. Pour pouvoir, et c'est ce que Chouraki a voulu faire. Hein? Alors, est-ce que c'est possible de traduire le Tanakh? Alors, en français, c'est particulièrement compliqué. Particulièrement compliqué. Chouraki, il écrit, le traducteur de nos jours, encore, avec sa plume ou le clavier de son ordinateur, quoi qu'il fasse, c'est qu'il est une victime vaincue d'avance. Voilà. Donc, si vous prenez une traduction, n'importe laquelle, en français, sachez qu'elle est fausse. Et qu'il va falloir... Bon, on s'en contente parce que, hein, à nos âges, on ne va pas recommencer à apprendre l'hébreu. Mais ce serait quand même bien. Alors, on va voir quelques petits trucs de traduction, puis je vous emmènerai dans des versets où c'est vraiment choquant les traductions. Alors, bien sûr, la première partie qui a choqué beaucoup de monde, c'est le premier verset de la Bible. Le premier verset de la Bible qui, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Bon, alors, le premier mot de la Bible, vous le connaissez ? Bereshit. Je l'écris, donc un bête avec un dagesh, un sheva, un resh avec un et bref, un shin avec un i long, et un tav. Voilà. Alors, merci les rabbins d'avoir inventé les voyelles. Alors, vous voyez, excusez-moi, mais il y a un aleph entre deux ici. J'ai oublié de mettre. Voilà. Vous voyez, Chouraki, il s'est dit, tiens, là, Resh, Aleph, Shin, ça vous fait penser à quoi ? Rosh, la tête. C'est la tête. Le bête qui est devant, ça veut dire dent. Est-ce qu'il y a un article ? Un article caché. Qu'est-ce qu'on aurait dû avoir pour avoir un article caché ? Eh bien, on aurait dû avoir non pas B, mais B. Si ça avait été bas, on aurait un article. On aurait pu dire dans la tête ou dans le commencement, mais comme il n'y a pas d'article, c'est dans un commencement. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres commencements avant. Vous comprenez ? Alors, première erreur de des Bibles second et compagnie. Au commencement, Dieu créa. Non ! Dans un commencement.
C'est révolutionnaire, ça, ce que dit
Daniel. Mais peut-être, mais c'est comme ça.
Ah, mais non, je vais pas l'entendre, mais si on dit ça.
Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant ? Il y a eu d'autres commencements avant. Bien sûr que c'est révolutionnaire. Mais il faut prendre la Bible comme elle est. On n'a pas le droit de la trafiquer.
Ça veut dire qu'Adam et Ève n'étaient pas les premiers.
J'ai pas compris.
Ça veut dire qu'Adam et Ève n'étaient pas les premiers.
Alors qu'est-ce qu'il y a eu dans les commencements ? Les commencements précédents, on ne sait pas ce qu'il y a eu. La Bible n'en parle pas. La Bible, elle parle que ce dont on a besoin. Moi, on m'a souvent posé la question, tiens, pourquoi on ne connaît pas d'où elles sortent les femmes d'Adam et Ève, etc. Enfin, les femmes de Caïn, Abel, etc. Comment ça se fait qu'il y avait des femmes là ? D'où elles sortent ? Ben, la Bible, elle n'a pas besoin de nous le dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la Bible ne dit que ce qu'on a besoin. Donc, vous voyez ici, c'est même encore pire ce que je vais vous dire. Parce que ici, ça, c'est ce qu'on appelle un mode construit. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un mot ici qui est construit avec l'autre. Comme on dit, football, c'est deux mots construits. Les deux mots séparément ont un sens, mais ensemble, ça donne un nouveau sens. Eh bien, ici, Bereshit, c'est un mode construit avec quelque chose qui n'y est pas. Ça veut dire que la vraie traduction, c'est à un commencement, dans un commencement, trois petits points. C'est ça la vraie traduction. Et après, Elohim créé, etc. Donc vous voyez, lui, il a traduit en tête. Elohim créé les ciels et la terre. Les ciels. Et en plus, les ciels, c'est un pluriel duel. Ça veut dire qu'il crée deux ciels. Il y a le ciel où il y a les anges et notre ciel à nous. Donc voilà un petit peu déjà. Et alors lui, Elohim, dans sa traduction, il met un S. Bon, maintenant, c'est déjà un pluriel hébraïque. Il n'y avait pas besoin de rajouter un S. Mais lui, il l'a ajouté. Bon, c'est comme ça. En fait, le mot elle, simplement, ici, elle, ça représente la force de Dieu. Et Elohim, au pluriel, ce sont toutes les forces créatrices de la nature. Et d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, hein, ça a la même valeur numérique, 86, que Ateva, la nature. Donc, toutes ces forces créatrices, elles viennent d'un seul, c'est Yod et Vavé. Voilà. Alors, ici, le pluriel, parce que ça aussi, ça pose question, Elohim, comme s'il y avait plusieurs dieux, etc. Mais non, c'est le pluriel de la noblesse. Alors, quand ils ont traduit, il faudrait que je regarde la date de la traduction de la Septante, mais ça, vous pouvez le trouver sur Internet. Quand ils ont traduit la Bible pour faire la Septante, je vous lis un petit passage d'un livre de Chouraki. Ils, les rabbins d'Alexandrie, substituent à Yodévavé Adonai, Elohim, les noms de Kyrios Theos. C'est-à-dire que, à la place des noms grecs, des noms hébreux, ils ont mis des noms grecs pour l'Éternel, qui représentent les dieux des Hellènes. Du coup, voilà l'austère divinité du Sinaï transformée en personne déplacée sur les sommets helléniques de l'Olympe. Or, pour respectueux que soient les dieux désignés par les noms Kyrios Theos, ils appartiennent à une mythologie qui n'a rien à voir de commun avec l'univers religieux des Hébreux. C'est eux-mêmes, à ce moment-là, qu'ils ont commencé à introduire tous des noms, et c'est comme ça, d'ailleurs, je vous rappelle que Zeus, le dieu suprême des Grecs, Zeus a donné en latin Deus, qui a donné Dieu. Moi, maintenant, dans mes études, j'essaye d'éviter de marquer Dieu. Mais je marque. Alors d'ailleurs, si vous prenez une Bible, la Bible Second classique, à chaque fois que c'est marqué Dieu dans la traduction, en fait, c'est Elohim. Et quand c'est l'Éternel, c'est Yodévavé. Vous voyez ? Donc, Dieu, ça vient de Zeus. Désolé. Et c'est vraiment grave, hein, parce que Évidemment, à l'époque, ils étaient imprégnés de la culture hellène. Et si on avait mis des dieux, des noms de dieux hébreux, ils auraient cru qu'il y en avait des supplémentaires. Mais ça a été un drame pour les juifs, pour le monde juif, et certains ont dit que de faire la Septante, c'était aussi grave que le veau d'or. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que depuis que je fais les cours d'hébreu, chaque fois que c'est un nom déformé, pourquoi ils ont mis Moïse alors que c'est Moshé? Et tous les noms comme ça. Tous les noms.
Et ils ne savaient pas prononcer les che des Grecs. Alors,
c'est ça. Alors, Kyrios Theos, ça veut dire Dieu est le Seigneur. Mais vous voyez, c'est tellement quelque chose de grave encore maintenant qu'il y a des juifs qui font le jeûne du 17 Tammuz à cause de ça. Encore maintenant. J'aborde aussi ici la question du sang. La question du sang. Vous savez, Caïn a tué Hevel. C'est pas Abel, hein. Abel n'a jamais existé. Non, c'est Hevel. Hevel, ça veut dire fumée. Bon, alors, Caïn a tué Hevel. Et nos Bibles nous disent le sang d'Abel crie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais c'est important parce que ça fait réfléchir. Alors je vous donne juste le petit morceau du verset, c'est le verset 4-10, Genèse 4-10. Alors vous avez Kol, donc Kof, O, long. Kol veut dire la voix, une voix, hein, au singulier, au singulier. Alors ensuite, vous avez Dalet avec un Sheva, même avec un Hébref, Yod. Alors je vous rappelle que le sang se dit Dam. Dam. Donc ici, vous avez les lettres Dalet et Mem qui forment le sang, mais c'est pas d'âme, c'est d'émeil. D'émeil, c'est un pluriel. Et c'est un pluriel pour dire attaché au mot suivant. Et le mot suivant, c'est ton frère. Les sangs de ton frère, et en dessous, après, vous avez le mot tzadi avec un O, Ein avec un Sheva coloré en A, un Kof avec un I long et un même. Alors, Tsoakim, c'est la racine, c'est Tzadi, Ein, Kof. Et ça veut dire crier. Mais vous voyez que c'est un pluriel. Alors regardez comme c'est bizarre. Ça, c'est la voie, une voie. Descend au pluriel. Cri au pluriel. La voix est au singulier, mais elle crie au pluriel. C'est bizarre, hein? Alors lui, Chouraki, il dit, qu'as-tu fait? La voix descend de ton frère, clame vers moi, clame au singulier, il a mis, clame vers moi de la glèbe. Alors que la vraie traduction devrait être, qu'as-tu fait? La voix descend de ton frère, clame au pluriel, vers moi de la glèbe. Et après on réfléchit pourquoi Dieu a écrit comme ça. Alors, on sait que quand, d'une manière traditionnelle, quand le sang est au pluriel, ça veut dire qu'il a coulé de façon violente. Ça, c'est une interprétation. Mais l'essence, ça veut dire que si tu tues un homme, tu tues en même temps toute sa descendance. Et vous voyez, par exemple, quand il y a eu la Shoah, parmi toutes les victimes, et Dieu sait qu'il y en a eu, il y avait des savants, il y avait des médecins, il y avait toutes sortes de gens qui avaient une connaissance formidable, eh bien, certains d'entre eux auraient très bien pu trouver le remède contre le cancer. On l'a perdu. Et les sangs crient. Et les sangs, en plus, de ceux qui meurent du cancer alors qu'ils auraient pu être guéris par ces gens. Vous vous rendez compte de l'implication qu'il y a derrière quand on tue quelqu'un ? Alors ça, je voulais vous montrer un peu ça, pour débuter. Oui.
Et dans Ézéchiel, parce que Dieu dit « vis dans tes sangs », quelle signification ?
Je ne l'ai pas en tête. Il faudrait que je regarde le texte. Alors ici, je voulais aussi... oui. Parler de Nefesh. Tout le monde connaît Nefesh. Nous, on traduit par âme.
Non, on traduit par esprit et les juifs par âme.
Non. L'esprit, c'est...
Ah, excuse-moi.
Oui, c'est non. Nefesh, pour nous, c'est l'âme. Donc les sentiments, etc. Mais, quand vous regardez bien dans les Écritures, Nefesh, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire l'âme, ça peut vouloir dire tout l'être, et ça peut vouloir dire à certains endroits le corps. Mais le défaut de Chouraki, si on peut lui donner un défaut, c'est que quand il donne un sens à un mot, au début de la Bible, ça va être toujours le même sens dans toute la Bible. Et quelquefois, ça fait des contresens. Vous voyez ? Et ça parce que, alors... c'est là ce qu'on appelle la polysémie. La polysémie, c'est le fait qu'un même mot peut avoir plusieurs sens. Donc ici, par exemple, je vais vous lire... alors, il y a des trucs vraiment... Dans Genèse 9,4, il est dit... Vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc ça, c'est Nefesh. Lui, il traduit, mais la chair en son être, en son sang, vous ne la mangerez pas. Donc, il traduit toujours Nefesh par être, un être. Alors, par exemple, ça peut devenir gênant parce que vous voyez, quand Rachel, l'épouse de Jacob, elle est morte. Elle est morte en couche. Genèse 35, 18. Et comme elle allait rendre l'âme, Néphèche, car elle était mourante, elle lui donna, alors c'est son fils, lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Bon, tout le monde connaît ça. Et quand son être sort, voilà comment il traduit. Quand son être sort, c'est un peu troublant, c'est son âme qui sort. Hein? Quand son être sort, oui, elle meurt. Elle crie son nom, Ben-Oni, fils de ma transe. Mais son père le crie, Binyamin, fils de la droite. Alors, d'où vient ce Ben-Oni là? Dans les traductions françaises, on ne traduit pas, on l'appelle Ben-Oni. Lui, il l'a traduit Benoni. Il dit « fils de ma transe ». Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est quoi la transe?
Douleur.
Alors, la transe, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une grande inquiétude, une appréhension très vive, une douleur, une souffrance. Mais, à partir du 5e siècle, j'ai regardé ça ce matin, j'ai dit, c'est bizarre quand même le mot « transe ». À partir du 5e siècle, on disait qu'ils étaient en transe, ceux qui étaient en train de passer de vie à trépas. Donc, fils de ma mort, en quelque sorte. Alors lui, il met ce mot-là. Évidemment... Ouais. Alors, maintenant, il peut y avoir encore une autre compréhension, mais franchement, elle ne va pas dans le truc. C'est que on, la racine on, qui va donner oni, hein, eh bien, on, ça veut dire, c'est la force génitale. Fils de ma force génitale. Ça peut vouloir dire ça aussi. C'est curieux quand même, hein? Alors, on continue. Alors, ici, je ne vais pas l'écrire, mais... Quand Dieu parle à Abraham, il lui dit dans Genèse 13, 15, « Oui, toute la terre que tu vois, à toi je la donnerai pour l'éternité. Hein? » Et lui, il traduit « en pérennité ». En pérennité, pourquoi? Parce que c'est dit « ad olam »,« olam ». Olam, c'est à la fois toujours, mais aussi sur tout le territoire. C'est à la fois comme ça. Donc, c'est pas seulement toujours. Il faut aussi un mot qui englobe l'éternité, mais aussi l'espace. Et il a trouvé ce mot « pérennité ». C'est-à-dire que la décision de Dieu à ce moment-là, elle est, attendez, je vais essayer de le dire, imprescriptible. On ne peut pas la changer, la décision de Dieu. Donc soyez tranquille pour Israël actuellement, soyez en paix, ils auront leur terre. Ici, la ligature de Yitzhak. Alors, vous connaissez tous le texte, hein? Dieu dit, Genèse 22:2, prends ton fils, ton unique, que celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bon. Ben lui, il regarde le texte et puis il dit la hola. On traduit par holocauste, mais la hola, c'est élevé. La pensée de Dieu, c'était d'élever Isaac. Et donc, lui, il traduit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, va pour toi en terre de Moridja, et là, monte-le en montée sur l'un des monts que je te dirai. Et bien ça, ça fait réfléchir, parce que vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire réellement? Est-ce que c'était vraiment un holocauste qu'il voulait, ou est-ce que c'était une démarche spirituelle? Et lui, dans sa traduction, il permet de comprendre autre chose. Vous voyez? Alors, traduire, c'est vraiment interpréter. Y a un mot, une racine que je vais vous écrire. Oh, dis donc, comment j'ai fait? Merci. Alors, un P, avec un dagesh dedans, un halon, un kof, avec un A bref, et un dalet. Pakad, c'est une racine qui veut dire visiter, c'est Dieu qui visite les gens, et qui se souvient en bien ou en mal. Il visite les gens. Alors, très bien. Je vous lis Exode 3.16, version seconde. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Bon. Mais on va retrouver ce même verbe dans un autre texte que vous connaissez bien, que je vous lis. Toujours la version seconde. Exode 20, versets 4 à 6. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et quatrième, nous connaissons ça. C'est-à-dire que Dieu visite en bien et en mal. Donc c'est le même verbe. D'un côté, il dit j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte, et de l'autre, qui dit ici je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. C'est le même. Bon, mais comme Chouraki, il prend toujours la même traduction pour le même mot. Alors, il dit dans Exode 20, on lit, « Oui, moi-même, Yodévavé Adonai, ton Elohim, elle ardent, je sanctionne le tort des pères sur les fils. C'est pareil. D'accord ? Mais si vous allez voir l'autre verset, va rassemble les anciens d'Israël, dis-leur, Yodévavé Adonai, d'Elohim, de vos pères, s'est fait voir à moi, l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour dire, je vous ai sanctionné, sanctionné vous et ce que fait et ce que se fait en Mitzrayim. La version seconde dit, j'ai vu ce qu'on vous a fait, et là, lui, il traduit, je vous ai sanctionné, sanctionné. Ça veut dire que...
C'est eux qui freinent.
Ça colle pas, quoi. Ben, vous voyez, ça, c'est typique d'un contresens. Et parce que, quand il choisit la traduction d'un mot, il n'en change plus. Donc, il faut avoir un esprit critique. Il faut le savoir, ça, c'est tout. Une fois qu'on a compris, ben, on va avoir d'autres traductions qui complètent. Et puis surtout, on va avoir le mot hébreu. Parce que c'est un mot qui... Voilà, Dieu visite en bien et en mal. Mais le mot « sanctionner », ça fait penser à une punition. Vous comprenez ? Au moins pour nous maintenant en France. Allez, c'est...
Alors, excuse-moi Daniel.
Oui.
Oui, la sanction, c'est une, quelque part, c'est une punition. Mais alors, comment faut-il le comprendre ? Est-ce qu'on le comprend au premier niveau, à savoir, oui, c'est une punition, c'est une sanction ? Ou alors, est-ce qu'il y a un autre sens ? Est-ce que... Enfin, c'est important pour nous, quoi. Hein.
Oui.
Pour nous, je veux dire, pour nous chrétiens, entre autres. Mais, ouais. J'espère que je ne te pose pas une colle.
Non. Mais en fait, Dieu, il voit dans la descendance des pères, il voit si les enfants reproduisent, etc. Il voit tout ça, il surveille. Il regarde. Et puis les enfants, ils souffrent des péchés des pères. Hein. Si tu as eu un père alcoolique...
Justement. Alors ça, c'est un vaste sujet.
Bon, oui, on ne va pas l'aborder.
Non, parce que... Oui, effectivement. Oui, ça, c'est un...
Il y a quand même un autre problème, c'est qu'en français, le sens des mots, il y a un siècle, n'a plus le même sens maintenant. Alors, ce qui a été traduit...
Alors, je vais essayer. Ça va ? C'est un sujet important, hein. Je vais essayer de... J'ai pris un tout petit verset, tout petit, au psaume 84, verset 6. Et je voudrais qu'on l'étudie comme si on devait le traduire. C'est-à-dire, on va regarder tous les détails. On va passer un petit bout de temps, il n'y a pas beaucoup de mots, hein, il y en a 6. Alors, le premier mot... Aleph, avec un A bref, Shin, avec un Sheva, Resh, avec un E bref, Yod. Voilà le premier mot. Si vous deviez trouver la racine de ce mot, qu'est-ce que vous prendriez ? Les trois premières lettres. Donc, Aleph, Shin, Resh. Est-ce que vous connaissez un mot qui utilise ces trois lettres? Il y a un mot qui sert tout le temps, Asher, et qui veut dire que, quoi. Est-ce que c'est ça? Ben, non, parce qu'il y a Rei, il y a ça. Donc, c'est pas que quoi. Alors, c'est ce Rei-là, soit c'est un pluriel duel, vous savez ce que c'est un pluriel duel? J'ai deux mains, deux pieds, deux oreilles, pas plus. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Bon, et soit c'est un mot au pluriel construit avec le mot suivant. Alors, ici, c'est un mot qui est construit avec le mot suivant. Le mot suivant, c'est Adam. Je le mets. Alors, je vais mettre les... Voilà. Adam. Donc, c'est un mot au pluriel qui est attaché à Adam, comme ça. Et puis, vous voyez qu'il y a un petit truc ici, comme ça. Vous voyez le dessin? Ça veut dire qu'il y a un arrêt ici. Alors, quand on veut chercher, on dit ça ne veut pas dire que quoi. Donc, je cherche le strong. Alors, qu'est-ce que c'est que le strong? Monsieur Strong, c'était un Anglais qui a fait un travail gigantesque. Il a fait un dictionnaire et avec toutes les racines hébraïques et les racines grecques, et puis, à chaque fois, il a donné tous les sens possibles de la racine. Et là, moi, je vais dans le dictionnaire et je vois qu'il porte le numéro 835. Ne le retenez pas. Et le sens de ces trois lettres-là, c'est bonheur, bénédiction, heureux, heureuse. Bon. Mais comme le mot heureux est un pluriel, ben oui, il y a un X au bout. Donc même si vous êtes tout seul, vous êtes heureux au pluriel. Débrouillez-vous. C'est comme ça. Alors, ça peut vouloir dire bonheur, heureux, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi, parce que vous avez écher, ça veut dire bonheur, heureux, mais le verbe achar, ça veut dire être droit, c'est un chemin droit, avancer droit, avancer en progressant. Alors, on ne sait pas si ça veut dire heureux ou si ça veut dire marcher. On ne sait pas.
C'est comme ça que les béatitudes disent bien heureux en avant, pas juste en avant.
Alors, évidemment, les Hellènes ont traduit heureux. Parce que dans le monde hellène, le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais Chouraki, il a dit non. Le but de la vie, c'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être en relation avec Dieu. Donc lui, il va traduire autrement. Il va dire « en marche ». Alors, évidemment, Adam, ça représente le genre humain. Hein. Donc, je vous donnerai les traductions après. Mais ici, si on est gréco-latin, on va dire, eh bien, on peut, comme c'est un mode construit, on peut traduire « bonheur d'un homme ou d'un humain » ou un homme, parce qu'il n'y a pas d'article, mais c'est Adam au singulier. Un homme heureux. Ça, c'est la version hébraïque, on va dire, la pensée hébraïque. Comprenez ? Et puis, il y a ce petit signal, là, qui nous dit « stop ». Alors, ce petit signal... il s'appelle Tifa et son sens, ça veut dire ralenti, je suis fatigué. Donc, tu t'arrêtes un petit peu. C'est ça que ça veut dire. Et puis, après, vous trouvez deux mots qui sont attachés par un petit tiret. Attention, ça n'est pas un mode construit. C'est deux mots qui sont mis ensemble. Et vous avez donc « ein » avec un « o » long, « sein » tiré, « lamed » au long. Vous êtes d'accord ? Alors le mot « ose » ici, ça, ose, c'est un nom commun masculin qui veut dire une force, une puissance, un héros, un appui, une parure, une majesté, une gloire, une protection, une forteresse, vigoureux, vous voyez, quelque chose de très fort. Donc, on a une vigueur, et puis derrière, vous avez l'eau. Attention, c'est pas le lot ne pas. Hein. Ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Non, non, c'est pas la négation. C'est pour le lamed, toi. Pour toi. C'est-à-dire une force... pour toi. Alors, attention, dans la Bible, vous allez trouver quelquefois Ein avec un O. Pardon, pas comme ça. Vous allez Ein avec un OU en trois petits points. Sein avec un O long comme ça, ouzo, ouzo, ça c'est une force à toi, c'est ma force si tu préfères, tandis que là c'est pas ta force à toi, c'est une force pour toi, elle vient d'ailleurs. Vous comprenez la différence ? Donc, on n'a pas ça. Et... Hein ? J'ai pas compris. Athéa.
À toi.
À toi. Oui, pour toi. une force pour toi. Et cette force, elle vient d'ailleurs. C'est pas la sienne. Parce qu'on pourrait dire un homme heureux, il a de la force, on pourrait dire. Pour toi, l'amed, c'est pour, hein, ou vers toi. Alors, on a ensuite un bet avec un A long et un K final avec un Sheva, et vous avez l'Atnar. L'Atnar, je vous rappelle, c'est la césure du verset qui est coupé en deux. Donc on a là un point virgule. On s'arrête. Vous savez que le kaf, quand il y a un sheva dedans, ça veut dire elle ou elle. Quand c'est un a long, c'est lui. D'accord ? Le bête qui est devant ici, ça veut dire dans. Donc si je traduisais bêtement, je dirais dans elle. D'accord ? Ça va jusque-là ? Mais, comme il y a une pause ici, c'est une forme posale, ce qu'on appelle une forme posale. Et en réalité, c'est un A. Vous voyez la traduction ? La difficulté de la traduction ? Si tu ne sais pas que c'est une forme posale, tu vas te planter. Donc, ça veut dire, pour toi, alors je prends le résumé, si on résume la traduction, bonheur d'un homme, une force pour lui, ici, ou pour toi, en lui. Et lui, évidemment, c'est l'Éternel. Ça va jusque-là ? Vous voyez un peu la difficulté de... Alors, la vraie traduction, ça doit être « bonheur d'un homme, une force pour lui ». Je devrais mettre « lui » ici. « En toi ». Et « en toi », c'est l'Éternel. Vous allez avoir tout le corrigé, hein. Ça va jusque-là ? Vous allez voir un peu comme c'est troublant et comme c'est mal traduit après. Alors, on a fait la première partie du verset. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Alors, ça commence par un même, avec un Sheva, un Samer, avec un I, un Lamed, avec un Dagesh et un O long, et un Tav. Et vous avez un petit
dessin, là, comme ça. Un petit losange. Vous le voyez, le petit losange? Ça, ça veut dire tu t'arrêtes. Ça compte beaucoup, hein, la ponctuation. On peut changer le sens d'un verset si on ne fait pas attention. Alors ça, il faut demander l'explication au rabbin. C'est pas tout à fait la même durée. C'est comme la musique. C'est comme la musique. Il y a des blanches et des noires et des demi et des machins. Voilà. Alors, je vous signale que quand vous voyez un mot qui commence par un même comme ça, souvent, il y a une racine qui est un verbe, et si vous rajoutez un même devant, ça devient un nom commun. Ici, la racine, c'est quand même ces trois lettres-là, ce qui est rare. Non, excusez-moi, c'est pas la racine, je me suis trompé. On pourrait penser que c'est ça. Mais la racine, c'est Samer, Lamed, Lamed. Et qu'on retrouve avec un dagesh ici d'ailleurs. Le dagesh fait comme s'il y avait deux lettres. Hein. Et ça, ça veut dire soulever, monter. Salal, la racine salal. Et donc, si vous mettez un même devant, eh bien, c'est quelque chose qui monte. Et comme ici, c'est un chemin qui monte. Hein? Donc, Messila, si j'écris au singulier, Messila, c'est une route qui monte, ou un chemin qui monte, ou quelque chose qui monte. On a ici Messilot. C'est un pluriel féminin. Ça veut dire que c'est comme un escalier. Il y a des pauses, mais on monte et on monte. Ou si vous vous préférez, c'est des étapes qui montent. Mais ça monte toujours. Et puis, on a un dernier mot. Vous vous rendez compte le temps qu'on passe sur juste six mots? Un bête avec un i.
Excuse-moi, David.
Oui.
Mais avant la première lettre, on a la même petite virgule qu'on avait en sous-dialecte.
Oui, mais en bas. Ouais. Elle est en haut, c'est pas pareil.
Et elle a pas une...
Ça n'a pas le même sens. Non, non. Il y a tout un tableau pour ça. C'est un cours qu'on donne en cinquième année, la cantillation. Tellement c'est compliqué. Donc moi, je vous en parle juste un petit peu ici. Le lamed avec un sheva, un bet avec un alon, un bet avec un alon et un même final. Bon. Bilvavam. Alors, ça se termine par un am. Comme ça. Am, ça veut dire que c'est un suffixe nominal d'un mot masculin singulier et ça veut dire AE. Voilà, déjà. La racine, alors dedans vous avez ici, dans. Et vous avez la racine au milieu. La racine au milieu, c'est lavav. Lavav. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, lavav? Et si je vous dis lève?
Le cœur.
Le cœur. Le cœur, l'esprit, enfin oui, on peut... La sagesse, l'intelligence, le sens, l'ardeur, la poitrine. Et donc, ici, ça veut dire dans, cœur, à eux. Ou dans leur cœur, si vous préférez. Et donc, si je traduis tout le verset maintenant, bonheur d'un homme, une force pour lui en toi, entre parenthèses, Elohim, Yodevavé Elohim, hein, des étapes qui montent dans leur cœur. Alors, on a fait une traduction mot à mot. Et vous avez vu le temps qu'il faut. Maintenant, je vais vous lire les traductions qui nous sont données. Et vous allez voir qu'il y a des tas de mots qui apparaissent, qui ne sont pas dans la Bible. Première, second. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Où c'est que vous avez vu des chemins tracés, vous ? Je suis désolé, il n'y en a pas. Et il n'y a pas la notion de montée. Et il n'y a pas la notion d'étape. Vous voyez ?
En fait, c'est vrai, toute notre vie, on a été trompés.
Je n'irai pas le dire jusque-là, mais... Semeur. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. J'ai tout dit pareil. La tobe. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. De bon cœur, il se met en route. Mais où c'est que vous avez vu ça, vous? Mais vous vous rendez compte? Alors, Zadok, c'est les rabbins. Heureux l'homme qui met sa force en toi, dont le cœur connaît les vraies routes. C'est pareil, les vrais... Moi, c'est des routes qui montent. Hein. La King James. Heureux est l'homme dont la force est en toi et dans le cœur desquels sont, sont leurs chemins. Darby. Bienheureux l'homme dont la force est en toi et ceux dans le cœur desquels sont les chemins frayés. Où c'est que vous avez vu ça, vous? Mais c'est pas possible. La Bible de Jérusalem. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Hein? Ah, là, il y a un petit quelque chose. La Bible Martin. Oh, que bienheureux est l'homme dont la force est en toi, et ceux au cœur desquels sont les chemins battus. Encore une fois, des mots rajoutés. Alors, tous les mots rajoutés, je les ai surlignés en jaune. Et enfin, Chouraki, qui, lui, ne veut pas du mot « heureux ». Je vous l'ai dit pourquoi. Hein? En marche, l'humain dont l'énergie est en toi, des sentiers au cœur. On ne sait pas encore que ça monte. Mais moi, je vous dis, ça monte. Ça veut dire que c'est de plus en plus dur. Mais c'est pour s'approcher de Dieu.
Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Voilà.
C'est sûr que ce sont des chemins qui montent.
C'est des chemins qui montent. Mais jamais on voit apparaître la notion. Oui.
peintre vers toi de bon cœur. Peintre vers toi, on peut supposer que ça monte, mais,
ouais.
Mais de bon cœur.
Le bon cœur, il n'y est pas. Hein.
Texte original est en graduation.
Absolument. Il y a comme des marches, des étapes qui montent. J'ai voulu prendre ce petit verset pour vous montrer la difficulté. Alors, un petit peu conclusion, la traduction que nous on a faite, elle est sobre, mais elle n'est pas française. Il faudrait trouver quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent des mots. Vous voyez ? Alors, il ne faut jamais non plus retirer le verset de son contexte, parce qu'il faut voir pourquoi il est là. Hein. Mais souvent, quand c'est des... Il y a quelques fois, comme dans les proverbes, c'est vraiment des versets séparés. Et puis, on se rend compte que toute traduction affaiblit le verset. Et pour présenter en bon français, eh ben, les traducteurs, ils ont rajouté des mots qui ne sont pas dans les Écritures, mais qui rentrent dans nos têtes comme des vérités et qui sont en train de nous tromper. Alors, il faut des curieux comme moi pour vous l'expliquer.
En fait, nos chemins sont, si je comprends bien, nos chemins ne sont pas tracés, c'est nous qui devons...
C'est, on a des étapes de montée dans nos vies, c'est ça que ça veut dire. Ils ne sont pas tracés d'avance. C'est pas marqué, ça. Mais ben j'aime bien les rabbins parce qu'ils ont compris ça. Et ils disent que tout ce qui nous arrive dans la vie nous est adapté pour nous monter. Alors peut-être que nous, on n'est pas adapté à la situation parce qu'on n'a pas mûri comme il fallait. Mais tout ce que Dieu nous envoie est adapté à nous pour grandir. Ah, je voudrais vous montrer le pire de tous. Le pire de tous, c'est dans le psaume 22. C'est le psaume de, qu'on appelle ça le psaume de la croix. Parce que là, ça touche à l'honnêteté. Ah oui, non, là, je ne suis pas content du tout. Mais pas content du tout. Et quand je vous disais que les gens y traduisent en fonction de leur culture, la culture chrétienne, on veut faire passer des trucs dans la Bible, mais en faisant ça, on déforme les Écritures.
Est-ce qu'il existe des ouvrages ? Est-ce que des personnes se sont penchées sur la question des traductions, pas comme tu le fais avec l'hébreu, mais de dire attention, ne pas s'approprier des versets et d'en faire un petit peu des comment on peut appeler ça des comprenez le sens dans les oui, parce que quand même. On avait avec les chemins qui montent là, ça me paraît important quoi.
Ah oui.
Même si c'est pas essentiel, mais quand même. Quoi.
C'est le plus important. En fait, la vérité, elle est dans l'hébreu. Donc toute traduction est une interprétation.
Oui, non mais oui.
Parce qu'en plus, ils veulent que ça soit lisible, donc ils mettent du français à peu près correct, etc. quoi. Heureusement, on a diverses traductions, mais...
Par exemple, quand c'est traduit par un missionnaire, par exemple, de la vraie Bible, par exemple, pour un pays, il n'y aura peut-être qu'une traduction.
Ah oui.
Et ils n'ont pas le choix. Et donc, forcément, le missionnaire, enfin,
oui.
Traducteur de la vraie Bible, par exemple, un ou autre, il aura forcément ses propres concepts en tête. Et donc,
ce qu'il faut, c'est qu'il ne touche pas à l'essentiel. Parce que si le message, il est démoli... c'est pas bien. Et vous savez, quand, ils l'ont sûrement pas fait exprès, mais quand on fausse un verset, je sais pas, c'est comme une trahison.
On s'attaque à la lumière de Dieu.
Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut être curieux. Alors, au verset 17 du psaume 22, alors dans certaines Bibles, c'est le verset 16. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça dépend.
Parce que...
Je vous donne la traduction seconde tout de suite. Vous le connaissez, ce verset. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Eh bien, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. Et je vous dis, je suis en colère. Ouais. Alors, on va pas faire tout le verset, mais... Vous avez un « et » avec un « i », un « kof » avec un dagesh et un i long, un p avec un ou, un noun avec un i long, et ici vous avez l'atnar. Donc vous avez des choses avant. Hein. Itifuni. Itifuni. Ça veut dire ils m'ont entouré, ils m'ont cerné. Donc jusque-là, pas de souci. Hein? Jusque-là, la traduction mot à mot, si vous voulez, de tout ce qui précède, c'est car m'ont entouré des chiens, une troupe de malfaisants, ils m'ont cerné. Jusque-là, pas de souci. Mais c'est maintenant que ça se corse. Là, ce verset-là, je ne voulais pas le rater. Un kaf avec un dagesh et un olnon. Aleph avec un Sheva coloré en A. Resh avec un I long. Vous avez un petit, c'est IA ici, c'est-à-dire un petit losange. Donc, on s'arrête. Et puis, il reste deux mots. Yod avec un A long. Dalet avec un A bref et un yod, puis vav avec un sheva, resh avec un A bref, gimel avec un sheva, lamed avec un alon et un yod, et on termine le verset. Voilà la fin du verset. Trois mots. Trois mots. Alors, Kahari, ça veut rien dire, ça veut pas dire du tout. Ils m'ont percé les mains, hein, parce que ici vous avez mes mains et mes pieds. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Harry, Vous savez ce que ça veut dire, Harry? Un lion. Et le kaf devant, comme ça, c'est un préfixe qui veut dire comme. Comme un lion, mes mains, mes pieds.
Oui. Je me permets, Daniel. Moi, j'ai une seconde de 110, mais tout en bas, c'est rare. Il y a une note qui marquait ou comme, il va comme un lion.
Oui.
Ils l'ont rajouté en plus de la traduction traditionnelle.
Mais oui.
C'est quand même marqué tout en bas, comme un lion.
Alors, je vous signale que le terme percé, creusé, la racine, c'est kaf, resh, he. Ça, c'est creusé, percé. Alors, ils ont fait un truc alambiqué pour dire que, et ce serait le seul verset dans la Bible qui aurait ça, dans certaines versions, il y a un aleph qui vient se glisser ici entre deux. Vous voyez ? Alors, ils prennent des explications alambiquées pour dire que c'est un cas unique, qu'il y a ici une version bizarre, que le verbe percer a pris un aleph au milieu. Mais c'est faux. C'est faux. La vraie traduction, c'est comme un lion, mes mains, mes pieds. Et Chouraki, il a traduit, « Oui, les chiens m'entourent, une bande de malfaiteurs, ils m'encerclent comme un lion, mes mains, mes pieds. » Où est-ce que vous avez vu percé ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne comprend pas le
sens. Eh bien, c'est pour ça qu'ils ont inventé un truc. Ils se sont dit, parce que ce sont des chrétiens, c'est le psaume de la croix, donc on va mettre, et ben ils ont percé mes mains et mes pieds. Vous voyez ce que c'est qu'une interprétation ? Alors, je vous lis celles de Zadok, donc les rabbins. Eux, on ne peut pas dire qu'ils sont chrétiens. Hein ? Ils ont ajouté un mot. Car des chiens m'enveloppent, la bande des méchants fait un cercle autour de moi, comme le lion, ils meurtrissent mes mains et mes pieds. Ils ont ajouté ça. Mais je vois nulle part. Je vois nulle part percé. Et vous voyez, après on va aller voir les rabbins en disant, voyez, dans la Bible. Ouais. Il est écrit qu'ils ont percé mes mains, pieds. Vous rendez compte la prophétie ?
Oui, c'est ça.
Eh ben non. Ça m'a mis en colère.
Comment est-ce que nous, on doit comprendre avec ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Meurtrir, c'est déjà famille de percé.
Je ne sais pas, mais moi je ne touche pas aux Écritures. Alors vous pensez, vous recherchez, vous réfléchissez, pourquoi Dieu a fait ça comme ça. Il n'y a pas de verbe. Il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Mais c'est vrai. C'est pareil quand vous prenez dans Romains 11. La Bible second, elle dit vous avez remplacé les branches, on parle du peuple juif, hein, comme si l'Église avait remplacé Israël.
C'est marqué à la place de Moïse.
Oui, alors que c'est parmi eux. Et c'est impossible de traduire autrement. Alors pourquoi ils ont traduit comme ça? Parce qu'ils étaient sous influence. Ils étaient sous influence et il fallait absolument, parce que sinon ils auraient eu... Vous savez, l'Église catholique, elle était forte, hein.
Mais dans la seconde, c'est marqué comme ça. Moi, j'ai 1910. Les cathos, ils n'auraient rien à voir avec la Louis II. Tu comprends? Mais l'influence du...
L'influence très forte.
Elle était antisémite, même dans nos églises.
Oui, oui.
Réformées, il y avait malheureusement une mauvaise odeur qui traînait.
Voilà. Et donc, vous voyez que les... Pourtant, c'était des gens extraordinaires, tous ceux qui ont traduit. Mais ils étaient sous influence. Oui. Et il faut le savoir, ça. Donc après, ils n'ont pas osé modifier et ils l'ont laissé passer comme ça. Mais ça fait des doctrines terribles derrière. Alors, je voudrais... Il y a des trucs rigolos. Il y a Jérémie 42, 12. Jérémie 42, 12. Vous savez, c'est le roi de Babylone, il va finir par laisser partir les fils de Jacob pour qu'ils rentrent chez eux. Hein? Donc, Louis II, il traduit le verset que vous avez là, Jérémie. Hein? Je lui inspirerai, donc lui, c'est le roi de Babylone. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, il vous laissera demeurer dans votre pays. Donc, on parle de la compassion. Mais, vous voyez, je vous ai donné le verset en hébreu, et il y a deux mots qui ont la... C'est les mêmes mots, d'ailleurs, dont la racine est « haram ». Resh, Chet, même final. Vous voyez ça? Raham, c'est le ventre, la matrice de la femme. Et vous savez que quand on parle de la matrice, on parle des entrailles. Et quand on parle des entrailles, on parle de la compassion. Donc, le mot raham veut dire à la fois la matrice et la compassion. Donc, ici, dans le verset, Second dit, je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous, et il vous laissera demeurer dans votre pays. Ah ben, le... c'est comme ça, mais la matrice, c'est Rechem. Le mot matrice, c'est Rechem. C'est les mêmes lettres, hein. Hein?
Pourquoi c'est pluriel?
Pourquoi c'est pluriel? Alors.
Puisque c'est la matrice, le ventre.
Alors, c'est un hébraïsme. Je vous le donne traduit mot à mot. Et je donnerai à vous, ça c'est les deux premiers mots, compassion au pluriel, et il aura compassion. De vous. Et il fera revenir vous jusqu'à votre terre. Alors je vais vous donner différentes traductions. dont celle de Chouraki. Et celle de Chouraki, je vous donnerai des matrices et vous matricierez. Je vous ferai retourner sur votre glèbe. Alors, bien sûr, on ne pige rien. Mais si, parce que quand Israël est revenu ici en 1948, Dieu a matricié un nouveau peuple, un nouvel État, en un jour. Il a accouché d'un État, si vous préférez, en un jour. Il a eu compassion, on peut le dire aussi comme ça, et en un jour, l'État a été créé. Mais vous voyez, les traductions, c'est terrible, hein? Alors, Darby dit, « Et j'userai de miséricorde envers vous, il aura pitié de vous et fera de retourner dans votre terre. » King James, « Je vous montrerai miséricorde, au pluriel, tellement qu'il aura de miséricorde de vous et qu'il vous fera retourner dans votre pays. » Mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a des mots ajoutés. Dans Tob, « Je vous fais prendre en pitié. » Vous prenant en pitié, il vous laissera sur votre terre. Alors le mot pitié, je vous le dis tout de suite, les rabbins, ils n'aiment pas du tout. C'est très chrétien. Les rabbins, nous quand on fait Shabbat par exemple, on a la boîte Tzedaka. C'est-à-dire la boîte de justice. Donc si quelqu'un manque d'argent, on met de la boîte dans la boîte et ça sert aux gens pour rendre justice. Ce n'est pas de la pitié. Parce que la pitié, ça veut dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et les juifs, ils n'aiment pas ça du tout. Donc les juifs, ils veulent remettre la justice. Si quelqu'un manque, on lui donne. Mais on rend la justice. C'est pas le même esprit. La pitié, c'est encore un esprit hélène, hein. Je suis désolé. Hein. Il y a dominant, dominé. Hein. C'est l'esprit grec. Moi, je sais que quand on écoute des cours de Raïm, il dit le mot pitié, non. Hein. Il n'en veut pas. Hein. Alors, je vais vous lire. On va terminer avec des versets que je vais vous lire. Le psaume, vous l'aurez dans la feuille. Hein. J'ai trouvé ici plein de versets traduits par Segond et puis par Chouraki parce que c'est original. Proverbe 16:31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Les cheveux blancs. Alors, en fait, la racine, c'est « atar », et « atar » qui veut dire une couronne, effectivement, mais aussi une auréole. Un cercle de lumière. Ouais. Donc, lui, il traduit ses naissances, quand tu deviens vieux, quoi. Nimbe de splendeur se trouve sur la route de justification. Alors, une auréole. Mais c'est le vrai sens. Alors ici, Proverbe 20:25. Là, la racine qui est marrante, c'est Yala. Yala qui veut dire parler d'une façon téméraire, parler bêtement, sauvagement, enfin... comme un idiot. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On connaît ça, hein ? Un piège pour l'humain de bredouiller consacré.
De quoi ?
Bredouiller consacré. Puis, après les vœux, critiquer. Ouais. Alors, la science, Proverbe 22:12, les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Eh bien, lui, il traduit par la science, c'est pénétrer. Pénétrer la pensée de Dieu. Donc, les yeux de Yod-Heh-Vav-Heh Adonai protègent la pénétration. Il pervertit les paroles du traître. Alors ici, la colère. Vous savez que Dieu a un long nez. Quand on dit que Dieu est lent à la colère, en hébreu, ça veut dire qu'il a un long nez. Ouais. Et alors, ça met longtemps. Mais oui. Alors, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Eh bien, il traduit, ne fais pas paître maître narine, ne viens pas à l'homme de fièvre. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages clament la colère. Les hommes de raillerie soufflent dans la cité, les sages détournent la narine. La narine et la colère, c'est le même mot. Eh oui. Moi j'aime bien quand... Ah oui, Dieu a un long nez. Ben oui. Alors ici... là aussi, il y a un non-sens qui est donné par second. La racine, c'est Zayn Vav Resh, qui veut dire quelque chose d'étrange, de barbare, d'illégitime. Ça peut être une prostituée aussi, mais c'est quelque chose d'étrange. Alors, ça parle des gens qui boivent du vin. Et dit... Si tu bois du vin, trop de vin, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Bon, ça veut dire que si je bois, je vais aller voir les prostituées, en gros. C'est ça qu'on comprend. Mais non, tes yeux verront des étrangetés et ton cœur parlera de subversion. Pas pareil. Et ça, il faut aller voir la racine. Alors, la sangsue. La sangsue, Proverbe 30:15. La sangsue a deux filles, donne. Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Écoutez bien. Il donne le nom de la sangsue, parce qu'elle est donnée dans la Bible. Elle s'appelle Alouga. Alouga, la sangsue, a deux filles. Aboul, Aboul. Alors ici, Sin, même, signe même, c'est un animal rampant, venimeux, au féminin pluriel en plus. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Alors, ici, le second dit, le lézard saisi avec les mains et se trouve dans le palais des rois. Tiens, c'est le lézard. Pour second, c'est le lézard. Pour Chouraki, la tarente grimpe de ses pattes et la voilà dans le palais des rois. une tarentule, une grosse araignée.
Il y a un lézard dans la tarentule.
Hein ?
Elle ne rentre pas, la tarentule.
Si, elle rentre.
Elle rentre.
Bien sûr.
Elle
ben ouais. Et tu sais pourquoi tous les animaux qui volent, etc., se font prendre dans la toile d'araignée. Sauf l'araignée. Pourquoi ?
C'est les insectes qui se font prendre.
Parce qu'elle a de l'huile sur ses pattes.
Sur sa toile.
Ouais. Donc si tu veux pas être pris par les trucs du diable, faut que tu aies de l'huile aussi. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Fumée des fumées, dit Coëlette, fumée de fumée, tout est fumée. Vanité, c'est Evel. Evel, et non pas Abel, s'appelle vanité. Fumée. Pourquoi on a changé son nom ? Pourquoi qu'on a changé son nom ? Et c'est plein de trucs comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, au boulot.